surpris, ce sont les apatrides de Zananim en ce samedi après-midi 13h, 3 juillet 2021. Pour ceux et celles qui nous écoutent en direct, vous êtes peut-être un peu surprise. On est d'habitude là le jeudi à 18h30, mais là, en raison de fériés et de changements et de l'UQAM, nous sommes exceptionnellement ce samedi 13h. Donc, bienvenue à tout le monde. Les apatrides anonymes, ben, ce sont trois personnes dévouées et intéressées à tout ce qui se passe dans l'actualité concernant le racisme, la sécurité nationale, les frontières et l'immigration. Simon est avec moi.
Coucou Mathieu.
Salut.
Salut, salut tout le monde.
Salut. Salut Marie-Ève.
Hello, hello.
Hello, oh là là. Mathieu est à l'animation aujourd'hui. On fait ça à tour de rôle. Donc, émission de 70 minutes environ. Juste vous dire que pour ceux et celles qui seraient intéressés à écouter nos émissions précédentes, ben on a une page sur le site de Choc, évidemment, les Apatrides Anonymes. Toutes les émissions sont là, disponibles en balado. Donc, oui, 3 juillet, deux jours après le 1er juillet, qui a été assez spécial cette année. On va en parler sans doute avec Marie-Ève tantôt dans les actualités autochtones.
Légèrement.
Simon va être plus dans l'international aujourd'hui et en particulier la Colombie.
Colombie, puis un autre bloc ensuite avec un peu d'Haïti, de Hong Kong, Philippines, et on verra.
On verra, hein? Il y a tellement d'actualités. C'est, ça va être l'été, c'est vraiment très intense.
Oui.
Tout à fait. Donc, ben voilà. Moi, je vais vous parler aussi de quelques nouvelles par-ci, par-là. Donc, entre autres, sur la question des réfugiés à l'international et au Canada. On parlera de la marche de Solidarité sans frontières en fin d'émission aussi, et il va y avoir de la super bonne musique, mesdames et messieurs.
Choisie par Mathieu.
Oui, cette semaine, parce qu'on est vraiment un collectif démocratique, hein, on s'échange toutes les tâches et tous les rôles.
Voilà.
Voilà.
C'est donc, merveilleux, la rotation des tâches.
Oui, oui, le travail d'équipe.
C'est étourdissant.
Donc, on va écouter quelques notes de musique et je vous reviens avec un premier sujet à l'émission, les Apatrides Anonymes. Petite information qui est sortie il y a quelques semaines sur le site Le Majeur, qui est un site web d'information indépendant, majeur.info. Il y a une vidéo qui accompagne aussi l'article. Le titre, c'est « Des ex-travailleurs de Dollarama ont vu Nomadland. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? » Donc, on leur a demandé ce qu'ils avaient pensé de Nomadland, qui vient de remporter l'Oscar du meilleur film 2020-21. Et les deux ex-employés d'entrepôt de Dollarama n'ont pas été tendres. Selon eux, la manière dont le film représente la vie des employés dans les entrepôts d'une grande corporation est complètement déconnecté de la réalité. Vous n'êtes pas surpris, j'imagine. Le film Nomadland donne peut-être l'impression que travailler chez Amazon est une belle aventure. On peut même se faire des amis tout en gagnant sa vie. Mais la réalité est bien différente selon Gourav Sharma et Gabriel Dufour, les deux ex-employés en question qui ont été interrogés par le média. Le porte-parole du Centre des travailleurs, travailleuses et immigrants, qu'on connaît bien, Mustapha Inoué, a déclaré tout simplement « Dollarama est notre Amazon à nous ». Donc, on peut le concevoir assez facilement. Donc, les deux travailleurs, Sharma et Dufour, se reconnaissent dans les personnages qui doivent se lever avant l'aube pour aller travailler, mais les scènes du film où on voit les employés être accueillis comme dans une grande famille avec de chaleureuses salutations et des conseils de sécurité ne leur rappellent rien. Chez Dollarama, ils se font plutôt imposer un rythme de travail effréné et dangereux et on ne leur a offert ni l'encadrement ni le soutien nécessaire. Par exemple, alors qu'il travaillait comme chargeur de palettes, Gourav Sharma s'est blessé au dos. Et quand il a demandé qu'on lui confie un travail plus sécuritaire, son employeur a tout simplement refusé et il a dû démissionner. Je cite Gabriel Dufour, « On ne s'occupe pas des employés là-bas, on fait juste dispatcher du monde comme des robots. Et une fois que le robot est hors d'usage, ben on en fait commander un autre auprès de l'agence de placement. » Donc, la protagoniste de Nomadland développe aussi de belles amitiés avec ses collègues chez Amazon. Mais cela est tout simplement impossible selon les deux ex-employés de Dollarama. On n'a même pas le temps de parler avec nos collègues, on est toujours pressés. Les superviseurs mettent de la pression sur les employés pour qu'ils gardent le silence et travaillent toujours plus vite. Et durant les pauses, les gens sont souvent trop fatigués pour avoir des conversations. En terminant, ben, si la vie des employés d'entrepôt est aussi dure, c'est pour que leurs patrons s'enrichissent toujours davantage, selon les employés et ex-employés. En effet, Jeff Bezos est l'homme le plus riche au monde, une autre réalité que Nomadland passe sous silence, il a encore ajouté 24 milliards US à sa fortune depuis le début de la pandémie. Et la famille Rossi, qui possède Dollarama, est l'une des plus riches au Canada, tandis que ses employés peinent à gagner salaire minimum. minimum, elle est assise sur une fortune de 2,5 milliards.
Dont une rondelette somme.
Deux rondelettes somme, évidemment. Fait que ça a l'air que c'est un bon film, Nomadland, je ne l'ai pas vu. Mais c'est sûr que des fois, on fait des films en oubliant certains petits aspects d'actualité. Hein.
Il aurait peut-être dû faire un stage en direct dans les entrepôts là, avant de oui. d'écrire leur scénario. Là.
Oui, Dolorama à Ville-Saint-Laurent, ça aurait été bon comme stage, je pense. Ouais. Donc voilà pour la première nouvelle de l'émission. Je poursuis avec Simon. Tu nous parles de la Colombie?
On s'en va en Colombie. Petite mise à jour, on en a parlé il n'y a pas si longtemps. On avait reçu Florence Dupasque, projet accompagnement Solidarité Colombie. Si vous voulez réécouter l'entrevue, c'était le 20 mai. Donc, mm-hmm. c'est disponible en podcast. C'est plus terrain, vraiment, qu'est-ce qui se passe avec la grève générale. Donc, comme vous savez, c'est ça. C'est la grève générale et ce qui a particulièrement déclenché la colère des Colombiens depuis le 28 avril, c'était le projet de réforme fiscale abandonné par la suite, proposé par le président de droite, Iván Duque. Un autre, il est dans notre top 5, je pense, lui, avec Bolsonaro.
Il flirte avec l'extrême droite, là, pas mal.
Pas mal, ouais. Ouais.
Je dirais, flirter, c'est un euphémisme.
Mais disons qu'on décrira pas l'acte en tant que tel, mais enfin. Puis c'était pas tout, la réforme fiscale, le gouvernement a tenté de faire passer toutes sortes de projets de loi pour affaiblir les conditions de travail, pour lever des normes environnementales. Ça a affecté les pensions, pour privatiser encore plus les services publics et pour donner des gros cadeaux fiscaux aux banques et aux entreprises minières. Peut-être Amazon aussi en a profité. On essaie de faire des liens.
On essaye.
Bref, c'est pas les raisons de manifester qui manquent en Colombie. Et depuis le 28 avril, ça manifeste vraiment beaucoup. Tous les jours, tous les soirs, il y a des barrages routiers à plusieurs endroits. Les médiateurs du gouvernement qui négocient avec le Comité national de grève sont incapables d'arriver avec des propositions intéressantes. Pour parler, qui sont constamment suspendus, repris, resuspendus. Donc, ça semble vraiment aller nulle part. Mi-juin, le Comité national de grève avait demandé une suspension de quelques jours des manifestations pour voir si ça ferait un peu progresser les négociations, mais visiblement non. Et les manifestations ont repris le 20 juin et se poursuivent encore aujourd'hui. Mm-hmm. Parmi les revendications du Comité national de grève, qui représente 26 secteurs différents, il y a quelque chose de très ponctuel, soit l'amélioration de la vaccination contre la COVID-19.
Okay.
Je parle de ça juste pour mentionner le ministre de la Santé, Fernando Ruiz Gomez, qui a tweeté que le nombre de décès dus à la COVID a augmenté à cause des manifestations.
Bien sûr.
Et non à cause de la gestion pitoyable de la pandémie par le gouvernement.
Et des gens emprisonnés tout le temps ensemble aussi, hein, j'imagine.
Ah, ça n'a rien à voir, ça?
Non. Ils arrosent de vaccins, oui.
C'est ça. des douches, enfin. Ne me fais pas rire comme ça, Mathieu, je vais perdre le fil.
Pardon, j'arrête.
L'État a réagi au soulèvement populaire de manière extrêmement brutale. Donc, Florence nous en parlait beaucoup lors de son entrevue. Donc, on parle de milliers de policiers lourdement armés qui sont dans toutes les grandes villes du pays, plus particulièrement à Bogota et à Cali, la troisième ville du pays, qu'on constate un peu comme l'épicentre des manifestations. On estime aujourd'hui entre 43 et 75, dépendamment de quel rapport on lit, de personnes qui ont été tuées en raison de la répression. 150 personnes portées disparues et environ 2500 blessées. La journée la plus meurtrière a eu lieu le 28 mai à Cali, alors que 13 personnes ont été tuées par la police en une seule journée. Évidemment, il faut ajouter la torture, des perquisitions sans mandat, des détentions arbitraires, des viols. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU réclame une enquête sur la répression. Et la Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui, je crois, est encore en mission sur le terrain. Le gouvernement, en premier, refusait
sa présence.
De la recevoir, mais finalement, il a cédé devant la pression. La police a détruit le monument à la résistance, qui est une œuvre d'art d'une dizaine de mètres de hauteur qui a été construite mi-juin à Cali, construite avec un permis en plus. Donc, c'était dans le but de donner de la visibilité aux revendications populaires. Pour se consoler, on peut toujours rappeler qu'il y a plein de statues de conquistadors et de Christophe Colomb, d'où est tiré le nom du pays, qui ont été déboulonnés dans les dernières semaines. J'aime ça rajouter des petites capsules d'informatique.
Oui, il faut qu'on suive.
il y a un quiz ensuite. Si on regarde sur une plus longue période pour avoir un portrait plus général de la Colombie, selon la Banque mondiale, qui n'est pas vraiment révolutionnaire, la Colombie est parmi les pays les plus inégalitaires de la planète en termes de revenus, et c'est le pays le plus inégalitaire de toute l'Amérique du Sud. Mm-hmm. Un tiers des jeunes de 14 à 28 ans ne travaillent pas et n'étudient pas. Il faut dire que depuis des décennies, l'État colombien a concentré toutes ses ressources dans la lutte contre les guérillas en négligeant complètement toute forme de filet social ou de service public. Pendant la pandémie, la pauvreté en Colombie s'est accélérée pour atteindre 42,5% des 50 millions d'habitants. Ça nous donne 22 millions de personnes sous le seuil de la pauvreté. Donc c'est quand même assez impressionnant.
Ouais, ouais.
Il y a 600 dirigeants sociaux, dont plus d'une centaine de défenseurs de l'environnement et plus de 270 ex-combattants signataires de l'accord de paix qui ont été assassinés depuis l'entrée en fonction du président Duque en août 2018.
Assez récemment.
600 ouais. assassinats politiques quand même. D'ailleurs, le gouvernement fait rien pour mettre en œuvre les programmes de substitution qui étaient prévus par l'accord de paix, l'accord qui semble tabletter très, très, très haut dans le dernier sous-sol. Ça marche pas. En tout cas, c'est pas grave.
Il est très loin.
Ouais, c'est ça. La déforestation à grande échelle se poursuit dans l'Amazonie colombienne pour faire place à l'élevage de bovins et à l'agroalimentaire au détriment de plein de communautés indigènes, exactement comme au Brésil. Le déplacement forcé des populations rurales continue. On est rendu à plus de 8 millions de déplacés internes avec une augmentation de 177% dans la première moitié de 2021 par rapport à l'année passée. Le gouvernement a récemment décidé de reprendre les pulvérisations aériennes massives de glyphosate, comme ça.
Ouais.
Début juin, le président, sous la pression de la rue et de la communauté internationale, a annoncé une réforme de la police. On envisage une structure indépendante qui sera chargée de se pencher sur les droits de la personne, un genre de BEI. On va lui souhaiter d'être aussi efficace. On promet un meilleur suivi des plaintes et des citoyens, une révision de la formation des agents de police pour, dit-on, s'aligner sur les standards internationaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Des États-Unis, peut-être?
Ben, ou les nôtres. Nos bonnes pratiques bien de chez nous. Là. Le gouvernement, par contre, n'a pas cédé aux revendications sur la démilitarisation de la police. Actuellement, parallèlement à tout ça, il y a une énorme campagne internationale de groupes de pression, de députés, de citoyens. La liste est assez... des signataires est assez impressionnante, qui demande une suspension de l'accord de libre-échange Union européenne-Colombie, dont plusieurs des éléments négociés portaient justement sur les droits humains et la protection de l'environnement. Bon, vous me direz, ces points-là sont faits pour être contournés dans les accords internationaux. Et vous avez sûrement raison, mais le retrait de cet accord-là représente quand même une pression, une menace assez forte sur le gouvernement. Impossible, pour terminer, selon moi, de parler de la Colombie sans mentionner son voisin, le Venezuela. Jusqu'à maintenant, depuis le début de la crise actuelle, plus de 5,7 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays, dont près de 2 millions pour se réfugier en Colombie, pays avec lequel le Venezuela partage 2200 kilomètres de frontières. Le Venezuela, c'est le pays le plus touché du monde par le phénomène des migrations après la Syrie, mais devant l'Afghanistan. Donc, c'était mon bloc Colombie avec son voisin Venezuela.
Bonne mise en situation, bonne mise, mise à jour, je pourrais dire.
Ouais, je trouvais ça bien peut-être de résumer, parce qu'on reçoit tellement d'informations sur la Colombie, donc essayer de faire un portrait un peu plus général.
Puis peut-être ajouter aussi que l'armée a été quand même impliquée dans la répression. La police qui est très militarisée, mais l'armée aussi, plus des groupes de citoyens, entre guillemets, armés, mais qui sont souvent des paramilitaires déguisés, là.
C'est ça, des milices, on les confond. De toute façon, ils ont pratiquement jamais leur badge avec leur numéro de
non, matricule. Non, puis les paramilitaires sont aussi du privé, là, engagés c'est par ça. Des propriétaires, donc qui ont toujours existé en Colombie. Puis peut-être mentionner aussi que le Canada a un accord de libre-échange avec la Colombie aussi, qui pourrait peut-être qu'il voudrait avoir des pressions aussi là-dessus, parce que c'est un accord assez récent quand même.
Peut-être Mathieu ou Marie-Ève pourraient commencer cette campagne-là.
Oui, on va appeler nos amis du PASC aussi, sans faute. Donc,
super.
Voilà. Mais merci beaucoup, Simon. On écoute quelques notes de musique et ensuite, c'est Marie-Ève qui nous parle de tout ce qui se passe au niveau des enjeux autochtones. Toujours les apatrides anonymes, exceptionnellement le samedi après-midi sur les ondes de choc.ca. Donc, on continue avec... il se passe tellement de choses au niveau... ça a été fou les dernières deux semaines au niveau autochtone au Canada. Marie-Ève?
Oui, puis ben surtout que comme notre émission devait initialement être le 1er juillet, on s'est dit que ça valait la peine de faire deux bons blocs là, sur les actualités autochtones.
Mais on a cancellé le Canada Day pour nous aussi. Hein,
c'est oui, ça. C'est ça. Cancel Canada Day. Le CAC Canada Day. Donc, en fait, je vais commencer avec deux décisions judiciaires dont on a plus ou moins entendu parler, qui sont tombées au début juin, en lien avec la mort de deux femmes autochtones. D'abord, Braden Bushby, qui avait été reconnu coupable d'homicide involontaire en décembre 2020 pour avoir lancé une boule d'attelage là sur Barbara Kettner en janvier 2017 à Thunder Bay, a été condamné finalement à 8 ans de détention. La peine a été réduite là de 1 mois en raison de la période qui a passé derrière les barreaux avant son procès. Il doit aussi soumettre un échantillon d'ADN, ne pas posséder d'armes pendant une période de 10 ans et, on s'y attend, ne pas communiquer avec les proches de Barbara Kentner. Lors des audiences sur la détermination de la peine, Bushby a fait appel de sa condamnation et a demandé une libération sous caution, ce que la juge a rejeté. Elle a expliqué sa décision en précisant qu'elle se basait à la fois sur les faits, sur les peines rendues dans des affaires semblables, donc la jurisprudence, et par le passé et l'état d'esprit de Bushby. Les avocats de la couronne, eux autres, avaient plaidé là en février pour une peine de 8 à 12 ans, mais ceux de M. Bushby avaient plutôt suggéré une peine de 4 ans. La couronne a affirmé que, en fait, son geste devait être considéré plus proche d'un meurtre, dans le spectre là où se situe l'homicide involontaire, c'est-à-dire entre l'accident et le meurtre. Donc, la couronne soutenait également que les actions de Bushby étaient motivées par un préjugé envers les femmes et les travailleuses du sexe, mais étrangement, n'a pas avancé que son geste était motivé par des préjugés contre les Autochtones.
Ouais.
Ouais.
Non, mais c'est une cause qui a été assez emblématique dans le Canada anglais. Puis
oui,
on a parlé
clair.
À l'émission quelquefois. Parce que les gens qui comprennent pas pourquoi on parle en détail de ça, c'est que c'était une cause évidente de violence contre les femmes autochtones.
Oui, c'est ça. Puis parce que c'est ça. Les avocats de la défense, en plus, c'était un peu n'importe quoi. Ils soutenaient eux que leurs clients pouvaient pas savoir que Barbara et sa sœur avec qui ils marchaient là, Mélissa, étaient des femmes parce qu'elles portaient des vêtements divers.
Okay.
Mais le juge a rejeté cet argument-là aussi et a affirmé que Braden Bushby avait même exprimé sa volonté d'atteindre une femme avec la boule d'attelage et qu'il avait même exprimé sa satisfaction après son geste. Tu sais. Rappelons finalement aussi que cette condamnation-là, la décision, est survenue quelques jours seulement après la publication par le gouvernement fédéral de son fameux plan d'action là, visant à mettre fin à la violence contre les femmes et les filles autochtones.
Suite à la commission d'enquête.
Voilà, ouais, c'est ça. Autre décision moins heureuse, celle-là, les services des poursuites publiques du cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick ont annoncé à peu près au même moment, en fait, qu'aucune accusation criminelle serait déposée contre le policier qui a abattu Chantel Moore à son domicile le 4 juin 2020 lors d'une intervention pour une vérification de bien-être, qu'on appelle, parce que Madame Moore était en crise. La décision survient, 4 juin 2020, donc la décision est survenue vraiment quelques jours seulement après le premier anniversaire de la mort de cette femme autochtone. L'événement, lui aussi, avait causé une onde de choc à travers le pays. Plusieurs chefs autochtones avaient demandé qu'une accusation de meurtre soit portée contre le policier. Mais la couronne, elle, dit être d'avis, et là où j'ouvre les guillemets, que le policier en question avait des motifs raisonnables de croire que la force ou une menace de force était utilisée contre lui par Madame Moore, qu'il a tiré sur elle dans le but de se défendre ou de se protéger, et que ses actions étaient raisonnables dans les circonstances. Fin de la citation. Mais ce qui a surtout motivé la décision de la couronne de pas porter d'accusation, c'est que, selon elle, les preuves permettaient pas d'établir ce qu'on appelle une perspective raisonnable de condamnation. C'est-à-dire que les preuves auxquelles elle avait accès craignait à ce que ça aboutisse pas justement à une condamnation. Souvent, dans ce temps-là, il n'y a pas de poursuites qui sont...
On entend parler ça d'un cas d'agression sexuelle. Oui,
ben non, ben c'est ça. Ouais, ouais. Pis, pour arriver à cette conclusion-là, la couronne, en fait, c'est basé sur des preuves de notre fameux bureau des enquêtes indépendantes.
Oui, ils sont rendus au Nouveau-Brunswick.
Oui. Et,
bientôt en Colombie.
Ah, oui, c'est ça. Donc, entre autres, des séquences de la caméra vidéo qui se trouvait à bord de la voiture de police, des images captées par des caméras de surveillance des commerces environnants aussi, des déclarations de témoins civil, policier de la ville d'Edmonton, analyse de contenu de téléphone cellulaire, etc., etc. Là, pour la suite, en fait, il va y avoir quand même une enquête du coroner sur la mort de Chantal Moore qui devrait commencer le 6 décembre prochain. Drôle de date de coïncidence avec la date fatidique du massacre de la Polytechnique contre des femmes. Donc, le 6 décembre prochain, le coroner et les membres du jury sont pas encore connus, ni le lieu exact, mais là, eux vont entendre des témoignages pour préciser un peu les faits liés au décès. Sauf que ça donnera pas grand-chose dans les faits parce que le jury, il a pas l'autorité d'attribuer une responsabilité juridique. Ben il peut juste formuler des recommandations pour aider à prévenir d'autres décès dans des circonstances similaires. Quant à la famille de Chantal Moore, elle, ben là, leur avocat a dit qu'elle évaluait les options. Donc, on va suivre ça. Mais peut-être, juste en terminant très, très rapidement, juste rappeler que l'agent, en fait, qui a abattu Chantal Moore avait réintégré la force policière d'Edmonton moins d'un mois après l'incident. Et à ce jour, il est toujours assigné à des tâches administratives.
Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut encore que les familles fassent des poursuites civiles parce que la justice au niveau criminel est plutôt boiteuse, si on peut dire. Donc, merci Marie-Ève
pour cette... Mais ce n'est pas du racisme systémique.
Non, non, non. Merci pour cette chronique juridico-autochtone et policière et...
ça sera moins mon deuxième bloc sera moins juridique et sera plus politique.
Plus politique dans la deuxième demi-heure. Donc, Marie-Ève va nous revenir avec les actualités autochtones. On va y aller avec une chanson, une première chanson pour cette émission du 3 juillet. Le rappeur Samian, qui est d'origine Anishinaabe, comme vous savez, au Québec, donne la parole à Delbert Sampson, un survivant du pensionnat de Kamloops, dans le vidéoclip de sa chanson « Ishkodé ». Elle a été dévoilée le 21 juin à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. La pièce est un extrait de son prochain album Nikamo qui doit paraître en août. Donc on écoute Samian.
We'll be right back.
toujours aux Apatrides Anonymes. C'était Samian avec Ishkodé, nouvelle pièce sortie il y a quelques jours à peine, album à l'automne. On poursuit avec un florilège d'actualité internationale en compagnie de Simon.
Un buffet froid. T'avais pas quelques chiffres à nous donner?
C'est ensuite, Simon.
OK, oui. Donc je vais commencer avec... j'ai quatre nouvelles différentes de quatre pays différents, donc des nouvelles qui n'ont pas vraiment de lien entre elles, mais qu'on jugeait dignes d'intérêt.
Et qui ont passé sous silence un peu, j'imagine.
Ouais, donc ce sera Bosnie, Philippines, Hong Kong. Je commence avec Haïti, où il y a recrudescence de violence assez marquée dans les environs de Port-au-Prince, au point où ça provoque des vagues de déplacés internes vers les régions autour de la capitale. Des centaines de familles ont fui Martissant, qui est un quartier ou une banlieue directement au sud de Port-au-Prince, où beaucoup de coups de feu entre groupes armés rivaux ont été tirés, beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Les gens ont peur, ils se sont réfugiés chez des proches, mais dans des commerces, dans les églises, à l'extérieur de Martissant, où il y a cette explosion de violence-là depuis fin mai, début juin à peu près. Mm-hmm. Les violences avaient lieu avant, mais depuis quelques semaines, on est vraiment dans une importante flambée. Les ONG sur place comme MSF ont mis fin à leurs activités dans le secteur parce que c'est jugé trop dangereux. Martissant, c'est là où passe l'une des principales routes nationales d'Haïti, la route numéro 2, qui dessert tout le sud du pays. Mais c'est aussi un épicentre de distribution de biens de base de l'alimentation. Donc, ça perturbe assez fortement toute la logistique, la distribution de biens de première nécessité, non seulement dans la région de Port-au-Prince, mais dans plein d'autres grandes villes du sud, comme à Jacmel, où la nourriture et les médicaments commencent à se faire rares et coûtent de plus en plus cher. Il y a entre autres plein de camionneurs qui veulent plus aller chercher leurs marchandises à Martissant parce qu'ils craignent pour leur sécurité. On n'imagine pas toujours bien tout ce qu'un climat de violence extrême, même très localisé comme dans ce cas-ci, peut provoquer. Mais par exemple, il y a deux pièces mécaniques qui sont actuellement stockées à Martissant et qui doivent servir à réparer des genres de turbines électriques défectueuses. Mais c'est impossible d'aller les chercher pour l'instant. Donc, on est passé à Jacmel de 18 heures de courant par jour à 10 heures. Pour utiliser des génératrices pour pallier au manque de courant, ben, ça prendrait du carburant qui, lui non plus, n'arrive pas. Le gouvernement et les différents partis politiques, ben, ils se blâment mutuellement pour les violences et ne font pas grand-chose. Donc, début juin, on estimait environ 600 déplacés internes. Mi-juin, on était rendu à 1500 et j'ai pas réussi à trouver de chiffres plus récents. Donc, si la tendance s'est maintenue, on doit être quelque part entre 2000 et 3000 déplacés internes à cause de cette violence à Martissant. Pour finir sur Haïti, ça n'a pas vraiment rapport avec la situation que je viens de décrire, mais question quiz pour vous deux.
Oui.
Quel est le taux de vaccination COVID à Haïti actuellement?
0%.
Oui, exactement.
Oui, c'est
0%. On attend 130 000 doses incessamment, alors on va souhaiter que ça passe pas par Martissant.
Et par M. Moïse, le président non plus.
Ah, qui est d'une efficacité redoutable.
Oui, par décret depuis un an, oui.
On va aller en Bosnie très rapidement. C'était juste pour souligner, pour célébrer l'échec de l'appel de Ratko Mladic, de l'appel de sa condamnation à la prison à vie, entre autres pour le massacre de Srebrenica et le siège de Sarajevo. Il avait été reconnu coupable de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Mladic, un des généraux les plus proches de Milosevic, était surnommé le boucher des Balkans et considéré comme le troisième architecte de l'épuration ethnique durant la guerre de Bosnie entre 92 et 95. 15 qui visait principalement les musulmans. Donc, prison à vie confirmée pour Mladic par la Cour pénale internationale et il n'y a plus de recours possible. Donc, ouais. Si vous voulez célébrer avec nous, il y a une excellente pièce de Godspeed You Black Emperor qui s'intitule Mladic. Je vais essayer de dire Cheers en bosniaque. Zivjiji.
Ah.
C'est Z-I-V-J-E-L-I. J'ai fait des recherches.
Oui, oui, c'est du sérieux.
Tu fais tes recherches, Simon.
Oui, j'ai pas trouvé de tutoriel de prononciation, malheureusement.
Non, mais honnêtement, c'est une bonne nouvelle parce qu'il était temps, maudit, que cette espèce de...
Ouais, mais tu sais, prison à vie, quand il est rendu, je pense, à 84, disons que...
Oui, il était en cavale pendant 20 ans.
Fait que... C'est ça. Ouais,
non, fait c'est un vieux débris, là.
Mais... Ouais. Finalement, il va avoir fait comme 6 mois, là, puis bon. On s'en va aux Philippines. On reste dans le giron de la Cour pénale internationale qui demande une enquête sur la guerre antidrogue du président Rodrigo Duterte. Des milliers de meurtres extrajudiciaux, donc des exécutions sommaires dans la rue, dans des logements, sans procès. Autant des personnes impliquées dans le financement, la production, la vente de drogue, mais aussi de simples consommateurs, des toxicomanes. Ce qui correspond probablement, selon Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, à des crimes contre l'humanité. Plein de monde qui n'a aucun lien ni avec le commerce ou la consommation de drogue ont aussi été tués dans ce genre de free-for-all sanglant, encouragé par le président Duterte. potentiellement des dizaines de milliers de civils assassinés par la police en collaboration avec des milices pas très claires, pas faciles à identifier, souvent des tireurs masqués. Duterte, lui, affirme que la CPI n'a aucune autorité et qu'il ne coopérera pas à l'enquête. Et tenez-vous bien, il a menacé d'arrêter la procureure de la CPI à La Haye, Mme Fatou Bensouda. Je ne sais pas comment il va pouvoir procéder à son arrestation.
Avec des parachutistes.
Ouais, c'est ça. Ouais, des filets. On ne sait pas trop, mais il n'y en est pas une déclaration niaiseuse près, M. Duterte. Bref, il s'agit quand même de la première brèche juridique importante jusqu'ici dans l'impunité de Duterte, qui est toujours président des Philippines.
Et toujours fou furieux, ouais.
Ah, et ça va pas s'améliorer avec le temps. On le craint. Hong Kong, donc on se déplace... on est toujours en Asie. On connaît la répression assez extrême du gouvernement chinois envers tout ce qui est pro-démocratie, les étudiants, les manifestants, les médias. Les répressions qui dépassent l'entendement, surtout depuis l'adoption de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin il y a environ un an. Un exemple assez frappant du rouleau compresseur chinois, cette perquisition spectaculaire au journal pro-démocratie Apple Daily il y a 2 semaines. Plus de 500 policiers se sont rendus à la rédaction du journal. Des ordinateurs, des disques durs, 44 disques durs précisément, ont été saisis. 5 des dirigeants du journal, dont son rédacteur en chef et son directeur général, ont été arrêtés. Suite à la perquisition, les journalistes qui n'ont pas été arrêtés ont travaillé toute la nuit pour pouvoir sortir une édition spéciale le lendemain. La une de cette édition, nous allons continuer. Et Vlan, avec un tirage de 500 000 copies, 6 fois plus qu'en temps normal, les Hong Kongais s'arrachaient littéralement cette édition historique du journal le lendemain matin. Alors voilà pour Revue de presse internationale.
Peut-être te préciser, Simon, que le journal est finalement fermé depuis cette semaine.
Ah, ça m'avait échappé.
Ils se sont auto-fermés suite à tout ce qui est arrivé, la répression, les pressions, les gens en prison. Fait qu'ils ont décidé de mettre la clé dans la porte. Après une dernière édition qu'ils ont imprimée, je pense, à 2 millions de copies.
Ah, finalement, il y a eu des réimpressions.
Oui, mais en fait, une vraie dernière, okay, à 2 millions de copies, quelque chose comme ça, là, cette semaine ou la semaine passée.
Ah, ben merci de mettre ça encore plus à jour.
Ben écoute, on t'en dirait que.
Ben ouais. Oui.
Merci Simon pour les actualités internationales. Moi, je vous donne quelques chiffres sur le rapport officiel final du Haut Commissariat pour les réfugiés en 2020 est sorti la semaine passée. On en avait parlé à plusieurs reprises de ces chiffres-là parce qu'ils reviennent. Il y a des rapports préliminaires, il y a des ONG qui en sortent. Mais juste vous dire les chiffres finaux de 2020. Donc, malgré la pandémie, le nombre de personnes fuyant les guerres, les persécutions et les exactions a atteint un record de 82,4 millions, un chiffre 2 fois plus élevé qu'il y a 10 ans. On en a déjà parlé. Le nombre de réfugiés, de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et de demandeurs d'asile a progressé de 4% en 2020 par rapport au chiffre déjà record de 79,5 millions fin 2019.
C'est des augmentations qui sont plus fortes que l'augmentation de la population en soi. Donc, on ne peut pas dire que c'est proportionnel. Là.
Bon point. 2020 représente ainsi la 9e année de hausse continue des déplacements forcés dans le monde. Aujourd'hui, 1% de l'humanité est déplacée et il existe 2 fois plus de personnes déracinées qu'il y a 10 ans, quand le nombre était de 40 millions. Là, c'est 82, je vous le rappelle. Fin 2020, le monde comptait 30,3 millions de réfugiés et autres personnes déplacées de force hors de leur pays et les demandeurs d'asile représentaient 4,1 millions de personnes. Mais le grand saut concerne le chiffre de personnes déplacées à l'intérieur. C'est causé entre autres à cause de la fermeture des frontières pendant la pandémie, qui s'élève maintenant à 48 millions, un nombre sans précédent. Pour donner une idée, certains disent que bien plus de gens sont forcés de se déplacer qu'à n'importe quel moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est quand même assez impressionnant, qui est une guerre relativement mondiale, principalement engendrée par les crises en Éthiopie, au Soudan, dans les pays du Sahel, au Mozambique, au Yémen, en Afghanistan et en Colombie. Le nombre de déplacés internes a augmenté de plus de 2,3 millions l'an dernier. Le rapport note également qu'au plus fort de la pandémie de 2020, plus de 160 pays avaient fermé leurs frontières et 99 d'entre eux n'avaient fait aucune exception pour les personnes en quête de protection, donc ce qui, comme je vous disais, au niveau interne. Les jeunes, filles et garçons de moins de 18 ans représentent 42% de toutes les personnes déracinées. Et près d'un million d'enfants sont nés en tant que réfugiés en 2018 et 2020, donc dans des camps en général. Au cours de l'année 2020, quelques 3,2 millions de déplacés internes et seulement 251 000 réfugiés sont rentrés dans leur foyer, soit une baisse de 40 et de 21% par rapport à 2019 pour ce qui est des retours. La réinstallation des réfugiés, on a parlé souvent, t'es vraiment
catastrophique. Ça va être intéressant de voir en 2021, les chiffres de 2021, tu sais, si le fait que si jamais les frontières réouvrent un peu, si ça va avoir vraiment un effet ou pas.
Oui, parce qu'il y a des politiques qui ont été changées, il y en a qui en ont profité pour durcir le tout. C'est ça. On verra. Puis il y a question aussi des sources, là, des guerres ou des problèmes environnementaux. Et on en a parlé souvent, la réinstallation des réfugiés a enregistré une baisse considérable. Seuls 34 400 réfugiés ont été réinstallés l'année dernière, soit le plus bas niveau depuis 20 ans. Et pour la 7e année de suite, la Turquie a accueilli la plus importante population de réfugiés au monde, 3,7 millions, suivie de la Colombie. La Colombie a plein de déplacés internes, mais reçoit tellement de Vénézuéliens que c'est le pays qui est particulier.
C'était 2-3 millions de Vénézuéliens en Colombie.
C'est ça, exactement. Le Pakistan, ensuite, qui reçoit beaucoup, l'Ouganda et l'Allemagne aussi, qui est le seul pays occidental là, dans le top 5. Entre guillemets, le Canada n'est pas dans le top 10, même si on en reçoit par rapport à la population plus que d'autres pays. Mais...
Oui, mais quand même. C'est pas très étonnant.
Non, c'est pas très étonnant. Mais bon, on en a déjà parlé. Il y a quand même certaines choses qui se font.
En prendre moins, mais OK.
En oui, prendre oui. Soin.
C'est beau, les amis. Donc, ben voilà, c'était donc le rapport du HCR. Tantôt, je vous parlerai des annonces au Canada sur le nombre de réfugiés en 2021 et d'autres chiffres là, du Migrants Rights Network, entre autres, là-dessus. Donc, on va poursuivre en musique, Marie-Ève et Simon. Palmarès Choc Franco, 25e position. C'est Jésus les filles. L'album s'appelle L'heure idéale. Il est sorti en juin dernier. Il y avait quelques singles qui étaient sortis plus tôt sur les disques du Prince. Et peut-être vous dire que le quintet mix homme-femme existe depuis 2008. Et c'est leur 5e album. La pièce s'appelle Antenne. C'est court 2 minutes. Profitez-en. Jésus les filles, la pièce Antenne de leur nouvel album, L'heure idéale, sorti tout récemment. Marie-Ève, on poursuit avec les actualités autochtones, mais plus politiques.
Oui, pendant que se succèdent les découvertes macabres de corps d'enfants autochtones sur les sites d'anciens pensionnats et que Justin Trudeau, lui, verse des larmes de crocodile sur nos écrans en appelant à la réconciliation, on peut dire que ses bottines ne suivent pas ses babines et que sa nouvelle devise devrait être « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ».
Ouais, c'est bon, ça.
Avec ses larmes, il va éteindre les églises incendiées.
C'est vrai. Un peu partout.
Ou les feux de forêt, oui. Oui, parce qu'en fait, pendant la semaine du 14 juin, la Cour fédérale a entendu la fameuse contestation du gouvernement fédéral des deux décisions du Tribunal canadien des droits de la personne, le TCDP, concernant des enfants autochtones retirés à la garde de leur famille. On vous en a déjà parlé, mm-hmm. Mais je vous rappelle quand même de quoi il s'agit. Un de ces deux jugements-là obligeait Ottawa à verser 40 000 $ pour chaque enfant des Premières Nations retiré de la garde de leurs enfants après 2006. Le second, lui, étendait le principe Jordan aux enfants autochtones vivant hors des réserves ou pour ceux qui n'étaient pas inscrits en vertu de la loi des Indiens. je vous explique le principe de Jordan, à ne pas confondre avec l'arrêt Jordan.
Oui, évidemment.
D'ailleurs, tous les enfants des Premières Nations devraient bénéficier du même soutien puis des mêmes services que les autres enfants canadiens qui vivent ou non sur une réserve. Ce principe prévoit la marche à suivre en cas de litige entre deux paliers de gouvernement ou deux ministères pour déterminer lequel devra payer finalement. Et donc, en vertu de ce principe-là, le premier à être contacté doit payer, puis le litige, ben, il est réglé
comme ça,
ultérieurement. En septembre 2019, le Tribunal des droits de la personne, justement, avait statué que le gouvernement fédéral avait fait preuve d'un comportement délibéré ou inconsidéré en corrigeant pas ces actes de discrimination-là. Il a conclu qu'Ottawa avait fait preuve de discrimination contre les enfants autochtones vivant dans les réserves en finançant pas correctement les services à l'enfance et à la famille. Mm-hmm. Le gouvernement, lui, bon, par rapport justement là à cette fameuse contestation, il dit qu'il est en faveur de l'indemnisation des enfants autochtones concernés, mais il affirme aussi du même souffle que le tribunal a outrepasser son autorité en accordant des dommages à intérêts individuels, puisqu'il n'y avait pas de plaignant individuel ou représentatif. Fait que,
c'est un peu technique.
C'est un peu du technique, puis c'est du niaisage. Là. Ottawa veut plutôt indemniser, en tout cas c'est ce qu'ils disent, les enfants autochtones et leurs familles par le biais d'un règlement dans deux recours collectifs et distincts, puis selon distincts mais liés. Mais le Mike Miller, le ministre des Services aux Autochtones, lui, il dit que ce processus-là permettrait de verser des sommes plus importantes que l'indemnité maximale de 40 000 pour chaque enfant prévu par le Tribunal des droits de la personne. Il dit aussi qu'il pourrait offrir une indemnisation plus proportionnelle aux préjudices subis. Sauf que là, ce que a soutenu l'avocat du gouvernement est un petit peu différent de la version de Miller. Il semble même contester la légitimité là, d'une compensation. Il a dit durant les audiences que cette compensation-là devrait être proportionnelle et raisonnable. Mais il a aussi soulevé à plusieurs reprises que le Tribunal des droits de la personne avait pas les preuves pour tirer les conclusions qu'il a tirées. Cet avocat, Robert Frater, dit que c'était comme si tous les cas étaient des pires cas et que le sous-financement des services à l'enfance et à la famille était la cause de tout ça. C'est un peu ça le point.
Ben oui,
là.
Ben oui.
Selon lui, il faut tenir compte plutôt là, de la durée de la prise en charge d'un enfant qui a été retiré de sa famille, qui peut varier de quelques jours à quelques dizaines de mois ou même à des années. Fait que, mais pour Cindy Blackstock, qui elle est directrice de la société, directrice générale de la société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, qui a déposé la plainte initiale il y a, je le rappelle, plus de 14 ans.
Au tribunal des droits de l'homme. À la commission des droits de la personne.
Voilà. Ouais. Ces deux causes-là portent sur les préjudices subis par les enfants autochtones. Je la cite, elle dit franchement, ça me dégoûte que, et en tant que citoyenne, de penser que le gouvernement dépense de l'argent et de l'énergie des contribuables pour lutter contre des enfants contre lesquels il a été constaté qu'ils avaient fait preuve de discrimination raciale en les séparant de leur famille, qui leur a causé du tort et même dans certains cas contribué à leur mort. Les déclarations de l'avocat ont aussi fait sursauter les avocats de la Société du soutien à l'enfance. Je cite par exemple Anne Lévesque, qui est une des avocates. Si le gouvernement est préoccupé que certains enfants n'obtiennent pas assez d'argent, ben c'est lui qui fait les chèques. Il peut donner plus à des enfants s'il les estime plus lésés que d'autres. Nous, on ne peut pas faire ça, nous étant la société. Le Tribunal canadien des droits de la personne non plus. C'est le gouvernement qui peut remédier à ce problème-là, mais la solution n'est certainement pas de donner aucune compensation à personne.
Et d'aller en appel comme ça devant la Cour fédérale.
Ouais. Le gouvernement y estime aussi que la décision du tribunal de verser une compensation aussi aux parents et aux grands-parents des enfants autochtones retirés est trop large, ce qui est ridicule parce que tout le monde sait que quand on enlève un enfant à une famille, ça a des répercussions sur les parents et les proches. La semaine avant les audiences, le NPD avait déposé une motion pour demander au gouvernement de Justin Trudeau d'abandonner sa contestation judiciaire concernant des enfants autochtones. Plusieurs députés fédéraux ont d'ailleurs, de tous les partis, ont d'ailleurs appuyé la motion, mais tu sais, ça, c'est représentatif de la volonté de la Chambre, mais c'est pas juridiquement contraignant non plus. Il y a d'autres organisations aussi qui demandent au gouvernement fédéral de faire annuler ces contestations. Bon, Amnesty International, la Commission canadienne aussi des droits de la personne, l'Assemblée des Premières Nations. Bref, on va voir. On va voir ce que sera le jugement. Là, c'était juste les audiences pour entendre l'appel du gouvernement. Et en terminant, ben, je pouvais pas passer sous silence quand même le refus de François Legault d'instaurer un jour férié pour honorer les Premières Nations, parce que selon lui, il y a déjà beaucoup de jours fériés au Québec.
On travaille pas.
Je vais essayer de limiter aussi bien que Simon. On n'est pas en faveur d'ajouter des journées fériées pour quelque raison que ce soit au Québec.
Je pense que ça va être ta job de limiter dorénavant.
On se demande bien qui est ce on-là, hein, mais aussi en quoi un jour férié de plus changerait quelque chose, surtout que en Occident, on est un des endroits où il y a le moins de jours fériés. Même les États-Unis nous battent.
Mais écoute, Lucien Bouchard sort de ce corps. Hein?
Oui, c'est ça, travailler.
Mais plus sérieusement, le fédéral vient justement dans...
Ben oui, c'est ça. Puis ouais. Je veux dire, d'adopter une loi qui modifie quand même aussi là, le Code canadien du travail en instituant un nouveau congé férié, c'est-à-dire la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui va être observée chaque 30 septembre par le gouvernement fédéral et les lieux de travail de compétences fédérales. Mais dans la foulée aussi des scandales des pensionnats autochtones, mon oncle Legault en a rajouté en réaction aux appels au boycott de la fête nationale du Canada sous le hashtag Cancel Canada Day et des nombreuses aussi manifestations, actions de déboulonnage et attaques contre des églises catholiques. Je cite des extraits d'un post Facebook que Legault a publié le 1er juillet à propos de la conquête. Les nations autochtones étaient déjà là, évidemment, et Champlain a établi des relations cordiale avec celle qui était présente sur les rives du Saint-Laurent, un peu plus loin. Il dit, après bien des péripéties, le Canada est devenu le pays qu'on connaît aujourd'hui. Et encore un peu plus loin, je nous invite à nous souvenir de l'origine de ce pays, du rôle primordial qu'ont joué nos ancêtres et surtout de ces relations cordiales, de ce partenariat qu'on a su établir à l'époque avec les nations autochtones.
Un partenariat d'évangélisation un petit peu. Là,
et de génocide.
Mais ça, c'est un mythe tenace, franco-gentil avec les Autochtones, anglo-méchants.
Non, mais sont-tu chanceuses, les nations autochtones, d'avoir pu bénéficier d'un tel partenariat?
Pour moi, François Legault, il était sous quand il a écrit ça.
Oh, je sais
pas. Il parlait avec Erin O'Toole en même temps qu'il y a le même discours.
Ouais, non, ouais, c'est ça.
Merci beaucoup, Marie-Ève, pour les actualités autochtones 2, qui étaient encore juridiques, mais plus politiques, on s'entend. Quelques notes de musique, et puis je vous parle brièvement d'une annonce sur les réfugiés au Canada. Donc, le ministre de l'Immigration du Canada, Marco Mendicino, a annoncé en conférence de presse il y a deux semaines un plan pour accélérer le processus d'admission des réfugiés au pays pour augmenter leur nombre. Et là, je vais essayer de vous expliquer entre les réfugiés déjà, les demandeurs déjà sur place ou les gens qu'on veut réinstaller. Il y a toutes sortes de nuances là-dessus. Cette année, le pays accueillera, donc en 2021, 45 000 réfugiés, une augmentation considérable par rapport aux 23 500 prévus dans le plan de l'année passée, par rapport qui avait été fait l'année passée. Faut souligner que le Canada a accueilli près de 30 000 réfugiés en 2019 et seulement 9 000 l'an dernier. Donc, il y a du rattrapage, évidemment, à faire. Et juste avant, le ministre a annoncé aussi deux nouvelles initiatives. Juste avant la Journée mondiale des réfugiés qui avait lieu le 20 juin dernier, il a aussi annoncé deux nouvelles initiatives, un peu techniques, mais je vous les donne quand même. Le renforcement du pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique, le PVAME, un programme lancé en 2018.
Que c'est ça?
Ce programme reconnaît le talent et les habiletés des réfugiés les accueillant à travers des voies d'immigration économique. Donc, ils passent l'étape du réfugié un petit peu vite. Et quelques 500 nouvelles personnes pourront postuler à ce projet prolongé pour 2 ans par le gouvernement. C'est un peu technique, mais j'ai essayé de comprendre, mais c'est vraiment des gens qui font une demande de réfugiés, mais on les envoie directement plus rapidement vers la résidence permanente à travers des volets d'immigration
comme,
économique.
Ouais, c'est ça. C'est comme si on transformait leur statut en immigrant économique, dans le fond.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, mais c'est des demandeurs d'asile à l'origine. Ouais. Comment sont sélectionnés? Ça, je peux aller fouiller à ce point-là.
Ben, c'est peut-être juste pour accélérer les dossiers.
C'est ça. Il y a des nouvelles mesures pour améliorer ce projet, dont l'élimination de frais et l'accélération du processus d'application pour le statut de résident permanent. Voilà, je vous complète l'explication. Le ministre aussi a annoncé plus de soutien pour les programmes de parrainage privés de réfugiés en investissant 3 millions de dollars sur 2 ans dans 9 organisations canadiennes. Donc, des petites annonces qui ont été faites. Le chiffre à retenir, c'est 45 000 réfugiés. Et là, en lisant des groupes militants ou des associations, j'essayais de décortiquer 45 000, c'est-tu mieux? Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé le Migrant Rights Network, qui est assez intéressant, qui a un peu l'idée, la campagne de statut pour tous et toutes à travers le Canada en 2020-2021. Ils disent qu'en date du 30 mars, il y a à peu près 70 000 personnes qui vivent un peu dans les limbes, sans droit, en attente d'une décision pour le statut de réfugié seulement au Canada. Donc, il y a ce chiffre-là. Et durant la pandémie, le Canada a beaucoup, comme d'autres pays, fermé la porte, évidemment, aux réfugiés qui voulaient seulement entrer, mais aussi appliquer. C'était beaucoup plus compliqué à cause du télétravail et tout. Donc, seulement 18 500 personnes ont été capables de faire une demande en 2020 par rapport à 58 000 l'année d'avant. Ça, c'est un gros chiffre. Et depuis le début de l'année, donc en date du mois de mai à peu près, seulement 2 245 applications de statut de réfugié ont été faites. Puis là, on parle de parce que des gens qui peuvent pas rentrer au Canada parce que les frontières sont encore fermées ou des gens qui peuvent pas envoyer leur dossier de l'extérieur. Donc, 45 000, on peut peut-être le relativiser en disant c'est plus que la dernière vraie année en 2019, mais c'est quand même pas tant que ça non plus, là, avec toutes les demandes puis les gens qui sont un peu pris en attente. Puis là, on parle même pas des résidents permanents, puis etc., là, sur les gens qui attendent.
Il va falloir attendre 2022 pour voir vraiment la réalité, les chiffres de 2021. Là,
exactement, pour pouvoir comparer, t'as raison, tout à fait. Fait que voilà, c'était des petites infos. J'étais dans les chiffres aujourd'hui un peu, donc je vous ai... vous les réécouterez si c'était trop...
Le pilote qui permet, en tout cas,
le projet pas pilote, ouais, c'est ça exactement. Donc, Simon, écoute, je te passe la parole pour une citation antiraciste. C'est
ben rare, on fait ça. Des citations racistes, normalement. Ouais. On fait le contraire aujourd'hui. On est le samedi. En tout cas, tout est à l'envers. Un peu dans la même veine que la révélation woke 2020 de Marie-Ève, c'était Régis Labeaume. Hein.
Oui.
Celui dont je parle aujourd'hui est pas mal le plus grand héros populaire canadien ces temps-ci. Et en plus, il est autochtone. Donc, juste ça, ça vaut la peine de le souligner. On parle de qui, Marie-Ève?
Carey Price.
Eh oui!
Yay!
C'est elle qui a imprimé mes textes, fait qu'elle a vu ça.
Non, pendant tout, je l'ai deviné.
Hey, okay. Arrêtez là.
OK, bon, ben, est-ce qu'il faut présenter Carey Price, gardien de but du Canadien?
Non.
Ben, numéro, je sais même pas son numéro. Fier autochtone de la Première Nation, Ulcacho à Anaheimlake, dans ce qu'on appelle la Colombie-Britannique.
Encore la Colombie, c'est bon.
Ben oui, hein, on a une thématique aujourd'hui, là, franchement. Donc, j'avais vu passer une citation de Carey Price dans les médias sociaux. Ça a piqué ma curiosité. J'ai fait quelques petites recherches et je me suis rendu compte qu'il y en avait plusieurs à son actif, des citations antiracistes et anticoloniales. Je vous en traduis une première. Les injustices sociales aux États-Unis sont à la base des problèmes vécus par les Afro-Américains et je supporte entièrement leur mouvement de protestation pacifique, donc un appui assez clair à Black Lives Matter. Sinon, évidemment, assez vocal sur la situation autochtone. Autre citation, j'ai su dès un très jeune âge les sévices que ma grand-mère a vécu en tant que jeune fille dans les pensionnats autochtones. Les déplacements et les mauvais traitements des Premières Nations au Canada et aux États-Unis ont engendré pour des générations pauvreté et problèmes psychologiques. Une petite dernière pour la route. Si vous n'avez jamais passé de temps dans une communauté autochtone et écouté les gens raconter leurs histoires, vous n'avez pas le droit de juger. Le Canada n'a pas été découvert, il a été envahi. Je suis tanné des petites opinions basées sur des stéréotypes qui manquent de respect et d'empathie pour les Premières Nations. Notre histoire est basée sur des mensonges et plein de faits sont complètement ignorés. Donc voilà, franc et pas complaisant du tout. Ça fait du bien à entendre.
Mais on l'entend où dire des choses comme ça? C'est pas couvert dans les médias francophones beaucoup, hein?
Ben, moi, j'ai googlé, évidemment. J'ai vu ça dans des entrevues dans des magazines. Ça peut être des tweets qu'il a fait. Ça peut
c'est
être
pas un bonsoir les sportifs, hein, disons, là.
Non. Non.
Ou à l'antichambre.
Ou à l'antichambre, ouais.
C'est ça. Non, les autres vont plutôt se limiter à les statistiques sur le sport. Puis, en tout cas, c'est ça. Il y a tellement peu de joueurs de hockey qui se prononcent sur des sujets délicats. En général, ils disent absolument rien.
Ah, ils ont
joueurs de hockey. Donc, je vais pas ternir ma capsule à la fin comme ça, mais on sait que Carey Price travaille quand même pour l'une des plus grandes familles fondatrices du Canada.
Ouais, ouais. Et qui est multimillionnaire, évidemment, aussi.
Ouais. Oui, c'est ça. Mais quand même, en tout cas, je voulais souligner, c'est la frénésie du hockey actuellement.
Oui, t'es dans le beat, Simon. T'es dans le beat. Donc, merci beaucoup, Simon. Quelques notes de musique, on y va avec la conclusion de cette émission. Donc, en ce 3G, on ne peut pas ne pas annoncer la marche Un statut pour tous et tous Montréal-Ottawa qui aura lieu dans 2 semaines. Notez qu'il y a eu des changements à l'horaire à cause ce qu'on nous dit chez Solidarité sans frontières, c'est à cause de la pandémie, entre autres. Ils ont dû modifier leur plan pour la semaine. Donc, au lieu de marcher pendant 7 jours, il y aura une semaine d'action à Montréal et à Ottawa. Donc, en résumé, ça devient une grande marche à Montréal le 18 juillet à 11h qui part du Carré Cabot. Des actions quotidiennes à Montréal du 19 au 23 et un autobus qui mène des gens à Ottawa pour camper près d'Ottawa et marcher les 24-25 dans la capitale fédérale. Fait que ça, c'est ça. En gros, c'est pas une marche de Montréal à Ottawa en 7 jours.
Ça a été comme sectionné un peu.
C'est ça. Puis surtout concentré à Montréal et à Ottawa. Ça évite l'hébergement, ça évite plein de choses. Donc, Solidarité Across Borders pour les infos. solidaritéacrossborders.org pour les infos, pardon. C'est donc du 18 au 25. Le rendez-vous à retenir, c'est pour les gens de Montréal, c'est le 18 à 11h au Square Cabot. Nous, on sera là sûrement aussi. Et puis, peut-être vous dire aussi que on invite tout le monde à participer dans l'appel, à rejoindre la marche. Peu importe votre statut, on dit, puis on accueille même les résidents et les citoyens, hein, pour qui sont bien
en solidarité.
En solidarité, exactement. Mais tous les sans statut, évidemment, tous les gens qui ont différents types de situations au niveau de l'immigration. Donc, voilà pour ça. Sinon, vous dire que...
Que ça sent la fin?
Ben oui, prochaine émission le 29 juillet, normalement. C'est dans 4 semaines parce qu'on a des petites vacances aussi l'été,
oui,
de temps en temps. Peut-être vous dire aussi, je ne l'ai pas dit en début d'émission, mais notre dernière émission, c'était la 50e, spéciale 90 minutes. On a eu beaucoup de bons commentaires, donc allez l'écouter, ça vous tente. On faisait un petit peu un bilan de différents enjeux sur nos 2 ans et quelques à la station. Donc, ça vous tente, allez réécouter ça.
Un peu d'humour aussi.
Un peu d'humour, tout à fait.
Et, oui, d'ailleurs, merci à Choc de l'avoir relayé sur la page Facebook
de Choc. Tout à fait sur la page officielle. Donc, voilà, on se revoit le 29 juillet. Je remercie Simon, Marie-Ève.
Merci Mathieu.
Ben oui, pour la réalisation, l'animation, recherche musicale.
Ben voilà. Justement, on va finir avec une pièce musicale, un groupe montréalais qui s'appelle Big Brave. La pièce est Half Breed, l'album s'appelle Vital, il est sorti en avril dernier sur Southern Lord Records. C'est un trio montréalais, 2 filles et un gars, qui font du post-metal, doom, sludge, bien pesant. Marielle?
Sludge.
Oui, puis j'invite les gens à aller voir la vidéo. Il vaut la peine. C'est comme de l'espèce de stop motion. En tout cas, il y a quelque chose de quasiment hypnotisant dans ce vidéoclip.
Puis la chanteuse a vraiment une voix assez exceptionnelle
très,
aussi.
Très, oui.
Et peut-être vous dire qu'ils sont en nomination pour le prix Polaris 2021.
Ah, tiens donc.
Donc, leur album Vital, en compagnie de Bessner Lake, CFCF, Dominique Fils-Aimé, Elliot Maginot, Claude Pelgag et Teke Teke.
Ah,
ah oui, le surf japonais. Là,
ouais, de Montréal, oui.
Teke.
Donc, la courte liste de 10 albums sera révélée le 15 juillet et le gagnant à l'automne. Et peut-être vous dire que parmi les gagnants antérieurs, l'année passée, c'était Backwash.
Ouais.
Et que Backwash a un nouvel album qui est dans le palmarès Choc anglophone qu'on fera jouer sûrement dans les prochaines semaines aussi.
Oui.
La nouvelle directrice musicale de Choc,
Esther,
elle nous envoie aux producteurs ici à Choc des listes, tout ça. Puis Backwash, c'était vraiment dithyrambique ce qu'elle disait. Là, que c'était gothique, c'était violent, c'était en tout cas bref.
Oui, fait qu'on va aller écouter ça puis on va le faire jouer dans les prochaines semaines. Donc merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. C'était une édition spéciale le samedi des Apatrides Anonymes. Normalement, on est le jeudi à 18h30. monde. Je vous conseille d'aller voir notre page sur le site de Choc. Sinon, notre site apatridesanonymes.info et notre page Facebook où on met beaucoup d'actualités, si ça vous tente de la suivre et de l'aimer. Et aussi pour nous rejoindre par courriel, apatridesanonymes@resis.ca. Donc, on se laisse avec Big Brave, voilà.
Ben oui.
La pièce All Breed. Et merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Et merci à vous deux.
Bonne fin de semaine.
Bon week-end.
Bye.
the history the pattern for the pattern for the pattern for the pattern.